Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour Christine.
Salut Nicolas.
Et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de La Gueule Ouverte. Aujourd'hui c'est la 95e émission. Et au sommaire, donc aujourd'hui, nous allons parler d'abord de l'Ukraine, puis nous écouterez un petit reportage concernant la marche pour le futur à laquelle Attaque Marseille s'est investie. C'était le 9 avril. Et nous terminerons par une note un peu plus légère avec l'interview de Gwenaëlle de l'ANV COP21 à propos, vous le verrez, d'un drôle de poisson d'avril.
Voilà, et puis avant, je voulais juste dire un petit mot sur quelque chose dont on a parlé dans l'émission La Gueule Ouverte du 10 février dernier. C'est pour ça, des petites nouvelles de cette mobilisation très réussie contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres le samedi 26 mars, puisqu'ils étaient plus de 7000 personnes à se rassembler. Donc une mobilisation d'ampleur inédite contre ces projets donc, d'immenses bassins à ciel ouvert, retenus d'eau, destinés à l'agriculture intensive et qui sont remplis en puisant dans les nappes phréatiques pendant l'hiver parce que l'été c'est interdit, au mépris des agricultures paysannes autour et des autres usages de l'eau. Donc une mobilisation largement préparée à la fois par des associations paysannes, des syndicalistes paysans, des écologistes en tout genre, des altermondialistes. Et les manifestants ont excavé et prélevé plusieurs sorties d'eau hein, du réseau de pompage de la bassine qui était en projet à Épane. Auparavant, dans une précédente mobilisation, ils avaient déjà enlevé la bâche hein, qui se trouve au fond des bassines. Voilà, donc ils montrent à la fois que c'est vraiment pas du solide, ces choses-là, et puis que surtout, ils n'en veulent pas. Donc c'était des petites bonnes nouvelles.
Merci Christine pour cette petite note d'espoir avant de commencer notre émission. Vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission d'Attaque Marseille, et c'est parti! Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'épineux dossier de l'Ukraine en essayant de traiter de nombreux sujets afférents à cette terrible et injuste guerre menée par Poutine.
Et oui, ça fait 40 jours qu'une actualité guerrière nous a sauté à la figure. La guerre en Europe, des guerres il y en a eu ailleurs il y a peu, hein, Syrie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Mali, mais en Europe, on ne voulait pas l'imaginer. Et la guerre, où qu'elle soit, n'est jamais aseptisée. Destruction massive de toutes les infrastructures patiemment construites par les humains, des morts civiles et militaires, des véhicules, des avions, des bâtiments en tout genre qui sont partis en fumée, l'incendie de dépôts de carburant, alors qu'on est là à essayer d'empêcher que du CO2 s'échappe dans l'atmosphère. Et puis, la guerre est toujours féroce. Hein. Il n'y a pas non plus de guerre civilisée. Et on a vu récemment donc, des témoignages de massacres de civils et aussi de viols de femmes. Donc, nous allons nous interroger un peu en géopolitique sur le rôle de la Russie, bien sûr, et également sur celui de l'OTAN et de l'Union européenne dans cette crise, sans oublier la solidarité nécessaire que nous devons apporter au peuple ukrainien.
Alors, tout d'abord, on va s'interroger sur la responsabilité de Poutine dans cette guerre.
Alors, sa responsabilité est entière ou quasi entière. Hein. Cette guerre est sa décision. Il en a fixé lui-même l'ampleur et la temporalité. Il rêve de reconstituer depuis des années la Grande Russie et elle passe par la reconquête de ses pays annexes, quoi, dont l'Ukraine ou en tout cas une partie de l'Ukraine. Son annexion des Sudètes ne pouvait que confirmer à ses yeux la faisabilité de son rêve d'annexion pure et simple. Poutine est au pouvoir depuis 22 ans, il gouverne seul. ses proches lui disent ce qu'il veut entendre et il ne fait pas bon être dans l'opposition en Russie. On risque de se faire empoisonner, par exemple.
Par exemple, ou emprisonner. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue clairement une violation de la Charte des Nations Unies et bafoue le droit d'autodétermination des peuples, droit pourtant reconnu dans l'histoire par Lénine aux peuples soviétiques, dont l'Ukraine, cofondatrice de l'URSS en 1922. Cette offensive s'appuie sur l'idéologie d'une grande Russie, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est clairement une politique impérialiste qui méprise les droits des peuples.
Donc nous allons maintenant parler de la place de l'Union européenne dans ce conflit. Et pour cela, nous allons remonter un petit peu dans le temps. Nous sommes en 2004 en Ukraine et c'est la révolution orange.
Et oui, les facteurs qui ont conduit à cette révolution, donc dite orange, sont dans un premier temps endogènes. Ce sont des rivalités entre oligarques de l'Ouest et de l'Est et un problème linguistique. Mais ces facteurs seront ensuite attisés en sous-main par les USA, notamment avec les liens des États-Unis avec l'association PORA, qui visait à pousser l'OTAN aussi loin que possible à l'Est. Là où l'Union européenne va interférer, c'est lorsqu'elle élabore et propose à l'Ukraine un accord de libre-échange complet et approfondi nommé ALECA.
Oui. Et comme tous les accords de libre-échange, celui-ci proposait la réduction des droits de douane et la libre circulation des travailleurs, entre autres. C'est le refus au dernier moment de l'Ukraine, gouvernée alors par Yanukovych, de signer ce traité au profit d'un texte concurrent russe qui va mettre le feu aux poudres et déclencher la révolution de 2004.
Les troubles meurtriers de la place Maïdan vont déclencher un accord de sortie de crise le 21 février 2004, après 2 jours de négociations entre Yanukovych d'une part et les ministres des Affaires étrangères allemands, français et polonais.
Donc l'Union européenne a joué un rôle alors dans cette issue ?
Alors en fait que partiellement, puisque ce sont 3 représentants autoproclamés des États membres de l'Union européenne qui ont joué le rôle de négociateur et non la responsable de l'Union européenne pour les affaires étrangères.
Alors la suite, on la connaît, hein. Le président Yanukovych sera renversé et les territoires de l'Est et de la Crimée vont faire sécession et entrer en guerre en fait avec l'État ukrainien. Le protocole Minsk 1 va accorder de manière temporaire l'autonomie locale dans les 2 oblasts, on dit, hein, et le retrait de tous les mercenaires étrangers de la zone de conflit.
Oui, mais les hostilités vont reprendre jusqu'aux accords dits de Minsk 2 qui ont été signés en février 2015 avec Hollande, Merkel, le nouveau président russe Porochenko, Poutine et des représentants du Donbass sécessionniste.
Le nouveau président ukrainien, bien sûr. Les années qui vont suivre verront apparaître un conflit de basse intensité, on va dire, hein, dans le Donbass, sans que l'Union européenne, en tant que telle, ni même la France, ni l'Allemagne, n'interviennent pour faire respecter ces fameux accords de Minsk 2.
Mais c'est donc par la suite, alors que Poutine se fait de plus en plus pressant, hein, que les protagonistes européens vont faire entrer en vigueur l'accord de libre-échange dont on parlait au début, hein, le fameux ALECA, qui sera signé le 1er janvier 2016. Puis ils vont ensuite agiter le chiffon rouge de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et en parallèle, ce sont les États-Unis qui agitent celui de l'adhésion à l'OTAN.
Et comment pourrait-on alors qualifier la gestion géopolitique de l'Union européenne dans cette crise ?
D'inconséquence, clairement d'inconséquence. L'ignoble agression poutinienne ne peut faire oublier l'inconséquence certaine de l'Union européenne depuis 2004, et cela pour 3 raisons que nous avons évoquées précédemment. Tout d'abord, en ayant importé dans un espace hautement inflammable une mèche et l'avoir allumée. C'est le traité de libre-échange, le fameux ALECA. En ayant ensuite entretenu ce feu, c'est-à-dire en participant au renversement de Yanukovych par le biais des États membres, puis en s'éloignant du brasier lors des accords de Minsk 1 avant de jouer les pompiers lors de Minsk 2 par le biais de 2 États membres, puis en ravivant les braises encore chaudes en faisant miroiter aux Ukrainiens l'adhésion possible de l'Union européenne.
Alors le peuple ukrainien paie donc au prix cher cette inconséquence de l'Union européenne. Cette situation met à mal également un des adages majeurs sur lequel l'Union européenne s'est construite idéologiquement, hein, celui selon lequel le commerce s'opposerait à la guerre.
Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'OTAN et commençons peut-être par retracer l'histoire de cette organisation.
Oui, alors pour rappel, l'OTAN a été créée lors de la signature du traité de l'Atlantique Nord le 4 avril 1945 par 12 membres fondateurs, dont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, entre autres. L'article 5 précise qu'une attaque contre l'un ou plusieurs de ses 30 membres actuels est considérée comme une attaque dirigée contre tous.
Et quel était le but de l'OTAN alors lors de sa création?
Alors, selon son premier secrétaire général, Lord Ismay, le rôle de l'OTAN consistait à garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle.
Donc, normalement, après la dissolution du pacte de Varsovie et la chute de l'URSS, l'OTAN aurait dû disparaître.
Oui, mais l'OTAN a par la suite déployé de nouvelles missions, en prenant en compte de nouvelles menaces, comme les conflits dans les Balkans, la montée du terrorisme international. Elle s'est élargie à de nouveaux États, vers l'Est européen, par l'adhésion d'anciens pays du bloc de l'Est, hein, et d'anciennes républiques de l'Union soviétique, dont bon nombre ont par la suite adhéré à l'Union européenne. Pourtant, les promesses qui ont été formulées au moment de l'unification de l'Allemagne excluaient la possibilité de toute extension de l'Alliance vers l'Est.
Alors maintenant, quelle est la part de responsabilité de l'OTAN dans ce conflit?
Aujourd'hui, l'OTAN compte 14 pays de plus qu'à la fin de la guerre froide et considère, décision officielle à l'appui, depuis 2008, que sa porte est ouverte à la Géorgie et à l'Ukraine. L'élargissement et la coopération économique de l'Union européenne avec ses voisins proches se sont retrouvés étrangement couplés avec l'extension de l'influence militaire transatlantique. Cette extension n'a pas apporté la paix promise. Les frontières des pays en Europe continuent à être redessinées de gré ou de force et plusieurs conflits non résolus couvent sur le continent. Les velléités de l'OTAN de gagner de nouveaux pays à l'est tout autour de la Russie avec installation de missiles et compagnie constituent une violation des accords de 91 et ont contribué à l'escalade militaire.
Alors maintenant, parlons d'attaque et du mouvement altermondialiste en général et de leur rôle face à l'invasion en Ukraine.
Alors, face aux logiques des grandes puissances, il est indispensable que le mouvement altermondialiste refuse les logiques nationalistes d'oppression nationale et tente de construire une solidarité par le bas avec les mouvements de la société civile ukrainienne qui résistent et s'organisent dans les pires conditions. Nous soutenons leur droit à l'autodéfense. L'agression armée est aussi l'écrasement des mouvements démocratiques. Nous sommes tout particulièrement aux côtés des associations ukrainiennes qui dénoncent cette guerre tout en s'étant battues contre la privatisation de leur pays par les oligarques, en défense des droits sociaux contre les politiques du FMI et contre toutes les mesures restreignant la consolidation démocratique, donc pluraliste, hein, de leur pays, contre la loi de décommunisation aussi qui existait.
Nous soutenons en même temps le mouvement anti-guerre qui grandit en Russie malgré les risques considérables. Des marches de contestation se développent dans plusieurs villes et font écho à la détermination des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Des journalistes, une part importante d'universitaires, des élus du PC, des milieux syndicalistes, altermondialistes se mobilisent, de même que les féministes qui constituent l'une des rares forces encore sur pied en Russie. Elles dénoncent la politique impérialiste et autoritaire du régime de Poutine et appellent les féministes du monde entier à rejoindre les mouvements anti-guerre et à organiser leurs propres actions. Nous devons contribuer à l'impulsion des stratégies collectives au niveau international, en premier lieu en Europe, pour soutenir ces mobilisations, qui sont un enjeu majeur susceptible de jouer sur le rapport de force et de fragiliser la position du dictateur.
Refuser cette guerre ne peut pas pour autant légitimer une extension de l'OTAN. Nous dénonçons les politiques réelles de maintien et d'extension de l'OTAN depuis 1991, après donc la dissolution du pacte de Varsovie. Les grandes puissances occidentales ont montré l'inefficacité de l'extension de l'OTAN. Elles tentent aujourd'hui de ménager un équilibre difficile entre l'ambition de sanctions contre la Russie et leur propre dépendance vis-à-vis d'elle, notamment énergétique. Les sanctions qui ciblent les dirigeants russes et les oligarques ou la banque centrale peuvent être utiles, mais nous refusons des sanctions qui pénalisent la population. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution militaire au conflit ukrainien, mais au contraire un risque d'embrasement sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, renforcé par la menace nucléaire. Les centrales nucléaires ukrainiennes apparaissent comme un enjeu stratégique, notamment pour l'armée russe, et pour faire pression sur les pays occidentaux, sur les plans politiques, économiques ou sur les enjeux énergétiques. La guerre de l'énergie, comme la guerre tout court, qui touche en premier lieu les Ukrainiens et les Ukrainiennes, menace en fait tous les peuples.
On sait que j'ai dû renoncer à me procurer un écran plat. Ce dernier m'aurait coûté de m'exténuer, de me mettre à plat, de me tuer à la tâche 35 heures par semaine, 4 semaines par mois. Si d'autres ont du temps à perdre, ça les regarde, surtout pour un salaire. Pas moi, l'air pas moi, je l'ai fait sans caviar, je l'ai fait sans foie gras. J'aime mieux manger peu mais sain que plein de n'importe quoi. Je préfère oublier mes besoins, créés par la publicité, répondre à la nécessité suffit à mes soins. À prendre soin de moi, car la vie qu'on a, nous, c'est ce qu'un de ça, on sait se plaindre, mais faire le choix de changer reste l'apanage d'une partie restreinte. J'ai moi songé à en être l'une des voix, et bien voilà. Et je crois qu'il serait bon d'être exigeant, demander la lune des fois. Cesser de se contenter de ce qu'on attend, c'est scandaleux. Et par contre, tenter de prendre ce qu'on attend, attends, serait 100 fois mieux que de se laisser bercer par ce qu'il nous raconte. Je lance un référendum sur le taf en souhaitant, comme moi, la masse votre rencontre. Si on consommait moins, et ben on bosserait moins. Et on irait bien, peut-être bien, parce qu'on trimerait moins. Si on consommait moins, on les engrosserait moins. Et on serait quelqu'un. On sait que j'ai dû renoncer à me procurer un écran plasma qui pourrait me faire kiffer mais qui me ficherait dans le caca, car il me pousserait à devoir rembourser tant par mois qu'il me priverait de mon temps, et j'aime autant pas moi. J'aime avoir le temps de prendre le temps, prendre le temps de lire un livre ou de voir un film, d'écrire un titre en pensant à ma vie entre temps. J'aime réveiller lentement puis ouvrir les yeux et me lever, et rêver longtemps en contemplant les cieux et m'élever. J'aime me sentir vivant, sentir que j'existe, en écrivant des titres, en gravant des disques, en subsistant, défiant les obstacles, évitant de me donner en spectacle. Je fais du sens et plutôt que du sens, pendant que les autres bâclent, ayez l'audace de tous démissionner, tous, en laissant le boss seul face à la merde dans laquelle il a sciemment mis son nez. L'heure de la désertion a sonné, la guerre économique se passera sans nous, sans quoi la lutte sociale nous passera sous le nez. Si on consommait moins, eh ben on bosserait moins. Et on irait bien, peut-être bien, parce qu'on trimerait moins. Si on consommait moins, on les engrosserait moins. Et on serait quelqu'un. Tu sais que j'ai dû renoncer à un écran de fumée, assumer quand j'ai su que mes yeux étaient embrumés, faire les choix conséquents quand c'est qu'on se décide à voir, que dans l'équation temps contre argent les gens se font avoir. Le temps est infiniment plus précieux parce que plus rare, l'argent qu'une infinité d'encriers et de buvards, de têtes mises sur des billets pour lesquels on perd la nôtre. On sert la haute instance financière et dit merde à l'autre, ce quel qu'elle soit. C'est bête et je vois que cette doctrine prédomine et perdure, les gens trouvent ça hyper dur de s'occuper sans s'empiffrer. Frais de shopping et d'air pur, polio au gaz d'échappement, sortant de la voiture nous servant, c'est sûr, à aller taf et lâche en bas, c'est ça le plan, pour nous aliéner à notre taf et l'argent, dérisoire qui en émane, on nous amène des besoins absents, besoins auxquels on sait qu'il nous faut renoncer. Ce n'est pas la croissance qu'il nous faut relancer, mais la décroissance qu'il nous faut lancer. Si on consommait moins, eh ben, on bosserait moins. Et on irait bien, peut-être bien, parce qu'on trimerait moins. Si on consommait moins, on les engrosserait moins. Et on serait quelqu'un.
Donc bonjour Greenpeace, vous êtes à ce rassemblement, bon pour l'instant petit, j'espère qu'il va grossir, qu'il va partir en manifestation, une marche pour le futur. Donc vous pouvez nous dire peut-être qu'est-ce que vous avez fait pour le préparer et puis qu'est-ce qu'on en attend quoi.
Ce qu'on en attend, c'est que c'est la suite d'une mobilisation qui avait déjà eu lieu ici même, là, à cet endroit, là, il y a 3 semaines, là, ou un petit peu plus, quoi, presque 4 semaines, qui s'appelait Don't Look Up. Voilà, sur lequel il y avait des stands tout au long de la place. Et donc on essaie d'amplifier ce mouvement à l'approche du premier tour des élections présidentielles. Et on espère sensibiliser le public à l'urgence climatique et à l'inaction des gouvernements depuis plus de 30 ans. Voilà. Alors je pense qu'il y a deux façons de regarder. On regarde le verre à moitié vide et on se dit que René Dumont en 1974, il y a 48 ans, Il nous expliquait déjà les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Le GIEC, le premier groupe de travail, il a été créé en 1988. Ça fait déjà plus de 30 ans que toutes ces mobilisations sont en place. Donc ça, c'est le verre à moitié vide. On se dit que le temps passe et les choses n'avancent pas. Le verre à moitié plein, c'est que aujourd'hui, quand vous interrogez la population, je pense que tout le monde se sent concerné. Tout le monde connaît dans son entourage des gens qui ont rencontré des difficultés pour des raisons climatiques, des problèmes de rétrécissement d'argile, des problèmes d'inondation, des problèmes de pluie torrentielle, comme on les rencontre souvent à Marseille. Donc tout le monde se sent sensibilisé. Et que maintenant, il faut arriver à nous, associations, savoir comment on va arriver à franchir l'étape d'après, c'est-à-dire à prendre des dispositions et à forcer les politiques pour qu'enfin on prenne des actions et pour que les choses changent. Voilà, je pense que c'est ça l'enjeu pour nous associatifs dans le futur immédiat. Voilà.
Merci.
Attaque arrive.
En force.
Pour l'émission qu'on fait sur Radio Galère, tu peux nous dire quelques mots sur cette manif et ta présence ici ?
Ouh là là, tu me prends de court là. Normalement, c'est un appel pour le futur, mais bon, comme il y a des élections demain, on s'est dit que ça se rapprochait le futur et qu'on a des possibilités, des choix. Pas que ça change radicalement les choses, mais quand même, on a des choix à faire. Et donc, nous, on pensait que c'était important d'être là pour rappeler qu'il y a, ça. Ça fait partie du réel, ça fait partie des données. Et quoi qu'on pense des élections, ça agit sur le réel d'une façon ou d'une autre. Donc, si les gens qui sont convaincus qu'il faut changer les choses... De contourner les élections, ça paraît un peu absurde. C'est pas parce que c'est pas l'outil suffisant que c'est pas un outil qui fait partie du réel. Voilà. Moi, je suis là pour rappeler aussi ça. Que quand on veut changer le monde, il faut aussi observer tous les signes qui peuvent faire, qui peuvent compter, quoi. Ouais, mais moi, ça fait longtemps que je les lis, les rapports du GIEC, et à chaque fois, c'est de plus en plus plombant, mais bon, c'est la logique même de la science qui fait que ce soit de plus en plus plombant, hein. L'inertie de nos systèmes font que, pour l'instant, le GIEC ne pourra pas sortir de ce constat complètement calamiteux, quoi.
Bonjour, on est toujours à la manif climat et je te vois avec ton drapeau palestinien. Tu peux nous expliquer ?
Oui, parce que ce soit sur le plan mondial, mais on va rester sur le plan de la Méditerranée. Tout ce qui va se passer va avoir un impact encore plus grand dans les pays qui ne maîtrisent pas vraiment, ou dans les lieux qui ne maîtrisent pas vraiment leur indépendance énergétique, leur action sur le climat, etc. Pour la Palestine aujourd'hui, certaines organisations, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, estiment l'augmentation de la température à plus de 4 degrés si rien n'est fait. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, tant à Gaza que même en Cisjordanie, où un maximum d'eau est utilisé pour des colonies agricoles qui exploitent de manière industrielle la terre, pour les Palestiniens, la terre volée, l'eau volée, et pour la bande de Gaza en particulier, eh bien, une eau qui n'est plus du tout consommable depuis le début de cette décennie. Donc si nous n'agissons pas tous ensemble, ici comme là-bas, eh bien, c'est la catastrophe qui s'annonce pour le peuple palestinien et aussi pour toute la région. Voilà pourquoi on est là avec le drapeau palestinien.
Et la pêche à Gaza aussi, ça se passe comment ?
Alors la pêche à Gaza, étant donné que les autorités israéliennes restreignent depuis 15 ans maintenant, puisque ça fait 15 ans qu'il y a le blocus, mais même avant il n'y avait pas une totale liberté de pêche pour la bande de Gaza. Aujourd'hui, la zone, dans les meilleurs moments, la zone de pêche est limitée à 5 miles nautiques, le plus souvent à 3 miles nautiques, c'est-à-dire que ce que les pêcheurs ramènent, eh bien, c'est quasiment rien. Et quand ils ramènent quelque chose, eh bien, vu la difficulté économique de la bande de Gaza, eh bien, cela part à l'exportation vers Israël, parce que c'est encore un moyen de faire rentrer un peu plus d'argent. Donc récemment, nous avons reçu des Palestiniens ici à Marseille qui voulaient à tout prix venir sur le port manger du poisson, parce qu'ils disaient qu'à Gaza, avec leurs revenus, ils n'arrivaient plus à manger le poisson. Voilà. C'est un véritable drame à la fois économique, mais aussi au niveau de tout ce qui est épuisement de la ressource de poisson tout autour de la bande de Gaza.
Merci. Bonjour Gert. Alors, pourquoi tu me manifestes là cet après-midi ?
Effectivement, demain c'est une grande journée, mais là on met seulement une petite croix. Et aujourd'hui, c'est très important qu'on dise tout ce qu'on dit dans ceci. Et par exemple, pour moi, j'ai vu comment tu te transportes. Je suis venu en vélo. Et pour moi, l'action est le plus important. Merci.
D'accord. Donc c'est une manifestation pour le climat.
Oui, effectivement, mais le climat, ce qui implique effectivement tout. Avec justement aussi les petites scotch qui manquent ici. Donc, moi, je pense que c'est très important dans toute l'action de notre vie. Le climat est donc d'ailleurs, parce que...
Ta planète, tu la veux bleue ou saignante?
Justement. Et donc moi, je ne suis pas français, mais j'ai quand même compris ce qui est marqué là-bas. Et de ce qu'on mange, de ce qu'on déplace, de ce qu'on fait tout le jour, et ce que je jette maintenant ici dans la rue, tout ça, c'est pour moi protection du climat. Ça, c'est important.
Merci. Quelques mots peut-être sur les motivations de votre présence ici?
Le fait que nous sommes dans une situation d'urgence et que la mobilisation ne me paraît pas suffisante et l'information non plus sur la mobilisation ne me paraît pas suffisante. Ainsi, c'est une amie qui hier soir m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il y avait une manif aujourd'hui. Je n'étais pas au courant, je n'ai rien vu dans la presse locale qui annonce cette manifestation. Il me semble urgent d'être là, même si nous avons de grands doutes sur l'efficacité de la chose. Donc voilà, je suis venue, voilà. Et les alertes sont nombreuses depuis de très nombreuses années. On le sait néanmoins, l'action est surtout limitée aux paroles, voilà, et non aux faits.
Alors, Luc, tu as un beau réveil là, accroché, aussi orange que ton t-shirt CCFD.
Oui, bah c'est symboliquement rappeler cette petite musique tic-tac, tic-tac. Il est temps, il est même urgent, voir est-ce qu'on a encore le temps. Oui, on a encore le temps d'agir, mais tic-tac, tic-tac, il faut agir vite, maintenant, tous ensemble.
Ok. Et donc, ben pour agir, le CCFD fait beaucoup de choses par rapport au tiers monde, mais vous êtes donc aussi maintenant sur des thèmes écologiques. Et c'est venu comment ce virage?
En fait, c'est nos partenaires. Le CCFD, on travaille exclusivement avec des partenaires près de 700 projets dans 70 pays à travers le monde. Et on n'intervient jamais directement. C'est toujours eux qui font et nous, on les soutient. Et en fait, ils nous disaient, mais nous, on les voit fondre, les glaciers. C'est chez nous que les catastrophes arrivent. Donc, en toute logique... On a bien évidemment depuis longtemps pris ce virage de l'environnement, de la lutte pour la justice environnementale et climatique, parce que ce qu'on fait ici a des conséquences graves là-bas. Donc notre réseau est engagé ici en France, nos partenaires sont engagés à travers le monde, et puis alors je suis désolé de le dire, mais on a un soutien de poids en la personne du pape François qui a écrit un livre qui s'appelle Laudato Si et qui est une invitation aux catholiques à se réveiller enfin, c'est ça aussi l'idée d'avoir le tic-tac et le réveil, se réveiller sur ces questions de climat et d'environnement. Pour nous, il est vraiment plus du tout l'heure de se battre chacun pour sa chapelle. Il y a qu'une seule planète. On le dit aussi, il n'y a pas de plan B. On n'a qu'une seule planète. Le pape, il dit tout est lié. Donc, il faut qu'on travaille tous ensemble. En tout cas, tous ceux et toutes celles qui veulent lutter pour que les choses changent et changent très vite. Donc, nous, le CCFD, on est aux côtés de la société civile dans la société civile depuis très longtemps. Et on essaye aussi de faire bouger les lignes dans l'église des catholiques qui étaient très frileux alors que le climat chauffe. Et ils étaient frileux sur ces questions. Mais ça commence aussi à bouger et donc embarquons tout le monde.
Marche vers le salut, pourquoi? Pour faire autre chose. Donc, autrement dit, de nouvelles alternatives, que ce soit pour le climat, pour le social, pour tout ce qui se passe, parce que tout est lié. Et ça commence par nous. Donc si on s'y met tous, on y arrivera. Et le CCFD Terre Solidaire, il est là aussi par rapport à l'international. Parce qu'on ne peut pas oublier tous les pays du Sud, et on a nos partenaires justement qui souffrent du corona, qui souffrent des spéculations, qui souffrent de l'arrachement des terres, et de l'arrachement des arbres, oui, de l'accaparement des terres.
Du manque d'eau.
Du manque d'eau. Voilà. Voilà.
Merci. Zéro, ah pardon, waste. Ah mais il faut parler anglais. Non, alors le mot waste en fait a pour vocation d'inclure tout ce qui est déchet, puisque waste se traduit par déchet et aussi par gaspillage. Donc ce sont la ligne de l'association est vraiment de réduire non seulement les déchets mais le gaspillage à la source également. Vous avez quoi comme genre d'action bon, venir à cette manif et puis...
Alors Zero Waste France, hein, c'est l'association au niveau national et nous sommes un groupe local, donc nous sommes Zero Waste Marseille et donc l'objet, enfin les actions qu'on a, ça va être de lutter principalement contre l'incinération des déchets et de mettre en place des systèmes de réduction des déchets à la source, mais également donc de faire de la sensibilisation sur la réduction du gaspillage. En ce moment par exemple, il y a une grande campagne de lutte contre la fast fashion pour sensibiliser le public à toutes les alternatives qui existent pour ne plus acheter de vêtements ou réduire drastiquement sa consommation. Zero Waste aussi au niveau national lance une série d'actions en justice. Par exemple, en ce moment, il y a des actions en justice contre l'incinérateur de Saint-Chamas qui a brûlé dans la région parce que la réglementation de son centre d'incinération, enfin de son centre de tri, c'est pas un incinérateur, n'avait pas été respectée. Il y a un feu qui a brûlé pendant très longtemps. Donc il y a plusieurs niveaux d'actions, hein, des actions de plaidoyer, des actions en justice, des actions de sensibilisation au grand public tout autour de la réduction. Par exemple, en ce moment, à Marseille, Zero Waste Marseille est associé aux alchimistes. Dans 6 rues marseillaises, il y a une expérimentation de collecte des biodéchets à la source directement pour les citoyens marseillais qui ne peuvent pas avoir de compost chez eux, pour montrer qu'en fait, au niveau de la métropole et à la municipalité également, qu'on pourrait collecter tout ce qui est donc épluchures de légumes, etc., directement chez les foyers marseillais pour en faire un compost de qualité et ne plus le traiter en fait avec les ordures ménagères. Donc l'expérimentation a pour but de montrer que c'est possible, que ça fonctionne et que c'est vers ça en fait qu'il faut aller pour réduire les tonnages envoyés à l'incinérateur de Fos-sur-Mer.
Merci. Bon, ben on va terminer avec Attaque quand même. Hein. Alors, tu peux nous rappeler les dernières informations du GIEC peut-être et les raisons pour lesquelles Attaque est ici.
Ah oui, c'est juste énorme. C'est ce que le secrétaire général des Nations Unies appelle le plus gros défi pour l'humanité. En disant que c'est de la folie, avec les mensonges des dirigeants, on se dirige vers une catastrophe épouvantable. Le GIEC disant, on peut encore rester relativement dans les clous des prévisions, ce qui n'est pas forcément génial parce que 1,5 degré à 2 degrés, à 2 degrés, le GIEC disait, on sort des limites de l'épure, donc on ne sait pas trop quand même où on va. Il y a déjà, on estime 3 milliards de personnes dans l'humanité qui sont déjà atteintes ou en grosse difficulté à cause du réchauffement climatique. Et là, maintenant, ils disent il faut qu'on ait cessé d'augmenter les gaz à effet de serre d'ici 2025 au plus tard et qu'on ait baissé de 45% pour 2030. Alors, pour avoir une petite idée de ce que ça veut dire, en 2020, année d'une grande paralysie économique essentiellement due à la pandémie, on a baissé de 5,8%. Et là, il faudrait qu'on baisse de 6% chaque année. Donc c'est un effort absolument gigantesque. Concrètement, pour tenir, il faudrait sortir très très largement des énergies fossiles extrêmement rapidement, ce qui veut dire une mutation des systèmes de production et de consommation très très importante. Voilà, donc là il faut qu'on hurle ça dans la rue. Et d'ailleurs les scientifiques eux-mêmes ont décidé de sortir aussi dans la rue en disant malheureusement les rapports, tout ça, ça suffit pas. Et ils sont prêts à des actes d'insoumission et c'est un réveil... révolution technologique, bon, évidemment, à moins que les intérêts des dividendes dans les actions des énergies fossiles soient plus importants.
Par rapport à notre région, j'ai vu des cartes montrant qu'on serait particulièrement touché par la sécheresse.
Ah ben oui, par la sécheresse ou enfin par tous les événements climatiques qui en découlent, une dérégulation. Et quand on dit un dérèglement climatique, c'est un dérèglement. C'est-à-dire que on voit d'énormes problèmes de sécheresse dans le Vaucluse, mais en même temps qu'on vient d'avoir
il y a moins d'une semaine, des problèmes de gel beaucoup plus forts que ce qu'on connaissait et donc qui touchent tous les arbres fruitiers de façon très importante. On peut prendre la catastrophe qu'il y a eu il y a 2 ans et demi dans la Roya. Bon, c'est ça aussi, avec la Méditerranée qui se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale et donc avec les phénomènes méditerranéens que nous connaissons ici ou dans les Cévennes, etc. Donc les dérèglements et les catastrophes derrière augmentent de plus en plus,
en amplitude,
un peu dans tous les domaines.
En amplitude et en nombre, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Merci.
Chime in time to a vicious low whine of the chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slight shapes shift across the maritime in the estuary. There's a clue to find in the fantasy life, poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life, poetry and crime. Have I begun this too weirdly in the estuary? Oh, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Old Normandy and the Saint Maritime in the fantasy poetry and crime. Bells they chime, bells they chime in time. The vicious slow whine of a chainsaw's grind in the summertime. Bells they chime.
Donc bonjour Gwen, tu es donc Gwenaëlle de ANV COP21 et il vous est arrivé une drôle de mésaventure après une blague du 1er avril. Tu peux nous raconter ça ?
Oui, tout à fait. Je fais partie d'ANV COP21 Bouches-du-Rhône et avec le collectif, on avait envie de faire parler un peu de la question des transports dans la métropole et surtout de dénoncer un peu l'inaction de la métropole par rapport à la question des transports. Et donc, on a décidé de faire un poisson d'avril à la métropole pour faire un peu réagir et faire parler autour de ces questions-là. Donc, on a fait un tweet le matin où on a effectivement fait un faux tweet de la métropole annonçant la gratuité des transports à partir de septembre 2022. Que l'on a accompagné d'un visuel et d'un faux communiqué de presse de la métropole. Le tweet a très bien marché parce que les personnes étaient enthousiastes de cette annonce. Et 6 heures après, on a, à l'aide d'un micro-trottoir qu'on a fait où on a interrogé les personnes sur ce qu'ils pensaient de cette annonce, et évidemment on avait des retours très positifs, et on a annoncé que c'était malheureusement qu'un poisson d'avril et qu'on aimerait quand même que ce soit la réalité. Et la métropole a donc fait un démenti de ce communiqué de presse que l'on avait diffusé le matin, ce faux communiqué de presse. Donc la métropole a fait un démenti avec donc un vrai communiqué de presse pour dire que c'était faux, que c'était pas possible de faire de la gratuité des transports, et surtout qu'ils allaient porter plainte contre ANV COP21.
C'est assez exceptionnel qu'on entende parler d'une plainte pour un poisson d'avril, parce que le 1er avril, c'est le jour autorisé pour un peu se moquer, faire passer des messages. Alors je trouve ça chouette, cette idée de micro-trottoir accompagnant le poisson d'avril. Donc vous avez eu, ça vous a permis d'expliquer l'idée qui est derrière cette demande de gratuité des transports, c'est finalement l'abandon de la voiture individuelle.
Alors, on a choisi de parler de la gratuité des transports pour attirer un peu l'œil quand même, parce qu'on sait bien que la gratuité des transports ne suffirait pas à ce que les personnes abandonnent leur voiture, parce que en fait, ce qui se passe actuellement dans la métropole, c'est que les transports sont pas assez accessibles, sont pas assez déployés, ils sont pas assez fiables. Donc, les personnes actuellement, prendre sa voiture, c'est plus pratique. Parce que les gens ne font pas confiance aux transports et les transports ne vont pas partout là où ils veulent aller. Surtout si ça a un coût en plus, effectivement, il n'y a pas d'intérêt à prendre les transports dans ce cas-là. Le problème, c'est qu'on a quand même sur le territoire des personnes qui, par exemple, n'accèdent pas à l'emploi parce qu'elles n'ont pas le permis, donc ça creuse aussi les inégalités. Et puis, bien sûr, en termes d'écologie, la voiture individuelle, à grande échelle, c'est pas possible. Enfin, c'est catastrophique. Donc, lundi, il y a le troisième volet du rapport du GIEC qui est sorti. Et en fait, on voit bien qu'on n'a plus que 3 ans pour agir pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça devient vital, en fait, pour la planète, pour l'humanité. Donc, il y a un moment, il faut faire des actes forts et la gratuité ne suffit pas, c'est certain. Mais voilà, là, c'était le moyen qu'on a trouvé pour attirer l'œil et refaire parler de la question des transports qui est vraiment défaillante actuellement dans la métropole ex-Marseille.
Cette plainte, je ne sais pas si elle sera maintenue parce qu'elle est quand même assez ridicule. Mais tout à l'heure, tu nous racontais que le canular, s'il a un peu énervé, c'est qu'il a quand même bien circulé. Et y compris chez des élus.
Alors effectivement, il y a des élus marseillais qui ont relayé ce poisson d'avril. Beaucoup ont salué cette fausse mesure. Déjà, quand on a fait le micro-trottoir, on a demandé aux personnes ce qu'elles pensaient de cette mesure. Et tout le monde a dit « Ah, c'est super, ça permet à certaines personnes qui n'ont pas accès au transport de les prendre, de pouvoir se déplacer. » Ou il y en a certains qui disaient « Moi, je paye pas les transports, moi, je paye pas les transports parce que j'ai toujours peur de me faire prendre. » Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah bon, mais les transports sont pas déjà gratuits à Marseille ?» en rigolant. Parce que pour faire une ou deux stations de tram, y a des personnes qui ne veulent pas payer. Elles n'ont pas forcément les moyens de mettre 2 euros pour faire ça. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui ont dit, mais pour des raisons écologiques, oui, c'est une évidence. Donc en fait, cette mesure qui peut paraître étonnante, elle paraissait tout à fait normale et acceptable pour beaucoup de personnes, même si c'est sûr que ce serait un gros budget.
Ça s'est déjà vu quand même, des transports gratuits comme dans la ville d'Aubagne avant, et même encore actuellement. Donc la droite a maintenu cette gratuité des transports à Aubagne et même à alentour, les communes alentour. Donc c'est pas forcément idiot. je attaque à pas de position là-dessus, hein, mais en tout cas, comme canular de 1er avril, c'était une très bonne chose et ça a bien énervé la métropole.
Bah, en fait, la métropole dit que on tombe sous le coup de la loi contre la manipulation de l'information de décembre 2018 et qui manifeste une volonté de déstabilisation politique flagrante dans un contexte de campagne électorale à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Bon, il s'agit ici de la métropole et non pas d'une candidature présidentielle ni législative, donc c'est un peu à côté quand même.
Et puis, mais surtout, quoi, le 1er avril, tout le monde s'attend à des fake news. Après, ce qui est rigolo, c'est que ceux qui oublient que c'est le 1er avril, ils vont y croire, c'est tout.
Oui, exactement, et si les gens y croient, c'est que c'est peut-être pas si illogique de faire ce genre de mesure, en fait. Bon, nous, on a diffusé la fake news pendant 6 heures pour démentir derrière et dire que c'était un poisson d'avril. C'est une loi qui entre en compte dans le cadre de campagne électorale. Là, on parle de la métropole. On est effectivement en campagne sur les présidentielles et les législatives, mais ça n'a absolument rien à voir. Après, s'il faut aller parler des transports de Marseille et parler de la défaillance de ces transports devant une audience, bah nous, on est prêts à y aller. Hein.
Ok. Eh ben, merci.
Alors, l'agenda d'attaque. Ben, pour le mois d'avril, il ne nous reste pas grand-chose à vous annoncer. L'apéro, c'était hier. Par contre, pour le mois de mai, on peut d'ores et déjà vous dire que le mardi 10 mai, à 18h30, à notre local au 29 boulevard Longchamp, le groupe Genre Féminisme va vous proposer une soirée débat. Sur le bilan de la loi de 2016 contre le système prostitutionnel, voilà, avec l'un d'entre nous et puis probablement en invité aussi quelqu'un du mouvement d'Uni.
Et puis le 11 mai, n'oubliez pas l'apéro d'attaque qui, comme tous les mois, aura lieu au Petit Nice à 18h30, 28 place Jean Jaurès, sur la plaine. On vous y attend, nombreuses et nombreux, bien évidemment.
C'est le deuxième mercredi de chaque mois.
Le deuxième mercredi de chaque mois.
Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous dire au revoir.
Bonne fin de journée et au mois prochain.
Et cette émission sera rediffusée le troisième lundi du mois.
À très bientôt.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.